Bonjour, chers collègues et chers amis. Je m'excuse de ne pas être présent à cette conférence, mais je peux m'entretenir avec vous à distance grâce à la technologie. Tout d'abord, je voudrais brièvement parler de l'état actuel du dépistage du cancer du col utérin dans les pays en voie de développement. Puis, je voudrais vous faire part de résultats très intéressants d'études récentes offrant de nouvelles approches de prévention du cancer du col utérin par le dépistage dans les pays en voie de développement. Le cancer du col utérin est l'un des cancers humains les plus évitables. Nous avons plusieurs options pour lutter contre ce type de cancer. La prévention, qui peut être potentiellement réalisée grâce à des stratégies de vaccination. C'est une option très attirante, mais qui demande de faire face à plusieurs obstacles. Il est nécessaire notamment de favoriser l'approfondissement des progrès effectués pour optimiser au maximum le potentiel de la prévention du cancer du col utérin par la vaccination. La seconde approche consiste en une prévention du cancer du col utérin par le dépistage. Une détection précoce par dépistage se traduit par un diagnostic précoce des lésions cervicales précancéreuses. Si ces lésions sont traitées avec succès, on peut prévenir les cancers invasifs du col utérin. La troisième approche consiste à détecter cliniquement les cancers invasifs de façon précoce et à les traiter de façon adéquate. Les résultats du traitement sont satisfaisants pour les cancers du col utérin invasif précoce au stade 1A ou 1B. Il existe donc des moyens d'action intéressants pour lutter contre le cancer du col utérin. Cependant, en dépit de toutes ces possibilités, le cancer du col utérin demeure un problème de taille dans les pays en voie de développement en raison du manque de mesures pour organiser la lutte contre le cancer. Encore maintenant, certains cas de cancer sont détectés à des stades cliniques très avancés. Et ce, parce qu'il n'y a pas de programme organisé ni de programme focalisé sur la détection précoce des cancers dans de nombreux pays. À l'exception des pays d'Afrique subsaharienne et de nombreux pays asiatiques, il n'y a aucun programme de dépistage. Dans de nombreux pays, il y a un nombre limité d'infrastructures sanitaires pour le diagnostic et le traitement, ainsi que des ressources humaines peu qualifiées et des possibilités de formation restreintes. Les systèmes de santé sont très variables en fonction des pays, et il y a de nombreuses barrières à la prévention du cancer du col utérin dans les pays en voie de développement. Quand nous avons évalué la survie des cancers du col utérin dans les pays en voie de développement, nous avons obtenu des résultats très intéressants. Comme vous pouvez le voir ici, le taux de survie varie d'environ 8 à 10 fois entre les différents pays. Le taux de survie le plus élevé est d'environ 80% et on l'observe en Corée du Sud et à Singapour. Des taux de survie beaucoup plus faibles, de l'ordre de 20%, sont observés dans les pays africains tels que la Gambie ou l'Ouganda, tandis que les pays tels que l'Inde, le Zimbabwe et les Philippines ont des taux de survie intermédiaires de l'ordre de 40%. Ceci démontre qu'il reste encore beaucoup à faire en matière de lutte contre le cancer du col utérin dans de nombreux pays. Il existe différents moyens d'action pour organiser et améliorer le dépistage dans les pays en voie de développement. Comme vous le savez, organiser un dépistage nécessite de mettre au point des politiques nationales et d'agir dans une démarche active d'allocation des ressources. Il est possible de développer les services de dépistage par phase, ainsi que les ressources humaines. Il est nécessaire de procéder à des investissements de grande envergure dans le diagnostic et le traitement, mais il faut un plan et un engagement politique pour parvenir à atteindre ces objectifs. Certains pays en voie de développement ont organisé un dépistage du cancer du col utérin. C'est le cas notamment de l'Amérique latine, où de nombreux pays ont soit des programmes régionaux, soit des programmes opportunistes, et où les petits pays ont des programmes nationaux. Cependant, la couverture du dépistage est toujours très faible. Parmi certains des pays sélectionnés, la couverture par au moins un dépistage au cours d'une vie dépasse les 60% dans des pays tels que Cuba, le Chili, le Costa Rica, Singapour et la Corée du Sud. Bien qu'il existe des programmes de dépistage du cancer du col utérin dans les pays déjà mentionnés, l'impact d'un tel dépistage est très limité pour différentes raisons. Tout d'abord, probablement en raison de la mauvaise qualité de dépistage et d'un recoupement des données insuffisant entre le diagnostic et le traitement. Ensuite, malgré tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour réaliser ces objectifs, le manque d'assurance qualité, ainsi que plusieurs facteurs, n'ont pas permis d'avoir l'impact attendu. On peut donc dire que jusqu'à présent, l'impact du dépistage dans les pays en voie de développement reste extrêmement limité. Dans ce contexte, plusieurs études se sont penchées sur la recherche d'alternatives à la cytologie du col utérin. La cytologie est une méthode satisfaisante, à condition que de nombreuses conditions soient réunies. Un contrôle qualité, un dépistage à répétition, des capacités organisationnelles suffisantes pour assurer une couverture de dépistage appropriée, un traitement adéquat des résultats des lames de cytologie, et enfin, assurer un lien entre le diagnostic et le traitement pour les femmes dépistées positives. Ce processus exige donc des ressources en grande quantité. À moins que ces ressources ne soient présentes et que la cytologie soit pratiquée de façon optimale, il est peu probable que les résultats soient de très bonne qualité. C'est pourquoi on est à la recherche d'alternatives, soit de faibles technologies, telles que l'inspection visuelle, soit de hautes technologies, telles que le test HPV. Méthodes qui ont été largement évaluées dans plusieurs pays. En ce qui concerne les programmes, le type de dépistage du cancer du col utérin effectué dans les pays développés est un dépistage à répétition. Dans certains pays, on effectue ce dépistage tous les 3 ans, tous les 5 ans ou tous les 2 ans. Cette approche n'est pas envisageable dans de nombreux pays en voie de développement. C'est pourquoi certaines personnes se sont penchées sur des dépistages avec des fréquences réduites, jusqu'à envisager un dépistage une fois au cours d'une vie, deux fois au cours d'une vie ou une fois tous les 10 ans. On assiste donc à un dépistage beaucoup moins fréquent. La question est de savoir quel en sera l'impact. Un autre type de programme consiste à réduire le nombre de visites pour améliorer l'adhérence au diagnostic et au traitement. L'approche traditionnelle comprend 3 à 4 visites, alors que la nouvelle approche comprend seulement une à deux visites, au cours desquelles on dépiste, diagnostique et traite, ou on dépiste et on traite. Ainsi, des chercheurs se sont surtout focalisés sur la disponibilité d'un dépistage en temps réel pour que le lien avec le diagnostic et/ou le traitement soit possible. Plusieurs études transversales se sont intéressées à la précision des différents tests de dépistage des néoplasies cervicales intraépithéliales, SIN, en particulier aux lésions de haut grade dans les pays en voie de développement. Nous savons donc quels sont les taux de précision de ces différents tests de dépistage. Par exemple, pour la cytologie, la sensibilité varie de 31 à 78%, mais la spécificité dépasse systématiquement les 90%. Pour le test HPV, la sensibilité va de 61 à 90%, mais la spécificité varie entre 60 et 94%. Pour l'inspection visuelle, on a aussi constaté de grandes variations. Pour l'inspection visuelle à l'acide acétique à 4 ou 5%, la sensibilité varie entre 50 et 96% et la spécificité entre 44 et 97%. L'inspection visuelle après application du soluté de Lugol a été récemment évaluée. Elle a à peu près les mêmes caractéristiques que l'inspection visuelle à l'acide acétique. Le message principal est donc le suivant. Le test HPV est le plus reproductible de tous les tests de dépistage. Dans la plupart des études, il a une meilleure sensibilité que la cytologie et l'inspection visuelle à l'acide acétique, et une spécificité moins élevée que la cytologie. Le dépistage par inspection visuelle dans les pays développés a à peu près la même sensibilité que la cytologie, mais sa spécificité s'est révélée moindre. Pour la première fois, nous avons la possibilité d'évaluer les nouvelles méthodes de dépistage en termes de variables de résultats précis, telles que l'incidence des lésions précancéreuses et le taux de détection suite au dépistage. Il n'y a pas d'études s'étant intéressées à la réduction de l'incidence et de la mortalité suite à un dépistage unique à l'aide de la cytologie traditionnelle avec contrôle qualité, suite à l'inspection visuelle à l'acide acétique ou suite au test HPV. L'une des études phares dans ce domaine a été un essai clinique randomisé contrôlé portant sur une approche dépistage et traitement de la prévention du cancer du col à Cape Town, en Afrique du Sud, mené par le Dr Denny, le Dr Tom Wright et leurs collègues, ayant donné des résultats très prometteurs. Dans l'étude, environ 6500 femmes ont été réparties aléatoirement en trois groupes. L'ensemble des femmes a été dépisté par test HPV, à l'aide du test HPV Hybrid Capture 2, ou par inspection visuelle à l'acide acétique. Elles ont été réparties de façon aléatoire en trois groupes de 2100 femmes environ. Dans le groupe 1, sur environ 2100 femmes, dès que le test HPV se révélait positif chez une femme, on pratiquait une cryothérapie. Dans le second groupe de 2227 femmes, dès qu'une femme était détectée positive à l'inspection visuelle à l'acide acétique, on la traitait par cryothérapie. Bien entendu, seules les lésions qui se prêtaient à la cryothérapie étaient traitées par cryothérapie. Les autres étaient référées vers d'autres traitements. Dans le troisième groupe, 2165 femmes ont été assignées à une seconde évaluation à laquelle elles devaient se présenter 6 mois plus tard pour être examinées à nouveau. À 6 mois, toutes les femmes de tous les groupes ont été examinées par colposcopie et biopsie dirigée en fonction des résultats de la colposcopie et de la fréquence des lésions SIN de plus comptabilisées. À 6 mois, dans le groupe de dépistage par test HPV et de traitement, on a diagnostiqué des lésions SIN de plus chez 15 femmes, par rapport à 43 dans le groupe de dépistage par IVA et de traitement. Dans le groupe témoin, avec une seconde évaluation, plus de 60 femmes avaient des lésions de type SIN de plus. À 12 mois, la prévalence des lésions SIN de plus était de 1,42% dans le groupe HPV et traitement, 2,9% dans le groupe IVA et traitement et 5,4% dans le groupe d'évaluation différée. Les résultats montrent donc une réduction de l'ordre de 70% de la prévalence des lésions SIN de plus dans le groupe de test HPV et traitement, d'environ 40% dans le groupe IVA et traitement, comparé au groupe de l'évaluation différée. C'est la première fois, dans un essai clinique, que l'efficacité de nouvelles approches telles que le test HPV et l'inspection visuelle à l'acide acétique est démontrée au niveau des lésions SIN, dans le contexte d'un pays en voie de développement. Ainsi, ces résultats démontrent que la méthode de dépistage HPV et traitement a une meilleure efficacité dans la prévention des lésions SIN comparée à l'IVA. Mais l'IVA a aussi un impact certain, puisqu'elle a réduit la prévalence des lésions de 39% comparée au groupe témoin. Maintenant, j'aimerais parler des résultats préliminaires de deux importantes études cliniques menées en Inde. La première est une étude contrôlée en groupe de dépistage par IVA dans le district de Dindigul, dans le sud de l'Inde, menée en collaboration avec le Christian Fellowship Community Healthcare Center à Ambilikai et le Cancer Institute à Chennai, en Inde. L'étude a été menée dans le district de Dindigul, au sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu. Elle comprend plus de 800 villages. Les femmes admissibles sont âgées de 30 à 59 ans. Leur utérus est intact et elles résident dans ces villages. L'objectif de cette étude est tout d'abord d'évaluer la réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer du col utérin suite à un dépistage unique par IVA, assuré par des infirmières qualifiées, comparé au groupe témoin n'ayant eu aucun dépistage. Pourquoi un groupe témoin sans dépistage? Car en Inde, les soins habituels ne comportent pas de dépistage. Il n'existe aucun programme de dépistage dans ce pays et nous n'avions aucune preuve pour valider l'hypothèse suivante, avant que l'essai ne soit mis en place. Un dépistage unique par IVA est suivi d'une réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer du col utérin. Il est essentiel de déterminer si on peut tirer un bénéfice grâce à un changement radical et en introduisant de nouvelles méthodes de dépistage. Dans le cadre de cet essai, nous évaluons aussi le rapport coût-efficacité de cette approche. L'essai a été lancé en 1999. De ce fait, le recrutement a commencé en 2000, Le dépistage s'est terminé en 2003 et un suivi de 7 ans a été mis en place dès le début de l'essai. Ainsi, les résultats les plus à jour de cette étude ont été soumis pour publication. Le type d'étude est un essai randomisé contrôlé en groupe. Plus de 800 villages ont été regroupés en 113 groupes de villages. Il y avait en tout environ 80 000 femmes admissibles dans ces groupes de villages. On les a ensuite réparties soit dans le groupe d'intervention, 57 clusters ou groupes, comprenant environ 49 000 femmes, soit dans le groupe témoin, divisé en 56 clusters ou groupes, comprenant environ 31 000 femmes, à qui on a fourni une éducation à la santé sur le dépistage du cancer du col et les services de soins vers lesquels se tourner. Finalement, environ 5% des femmes du groupe témoin se sont tournées vers des services de dépistage. Dans le groupe d'intervention, les femmes ont été dépistées au cours d'une série de dépistages uniques dans les centres de santé primaires par des infirmières qualifiées. Toutes les femmes détectées positives au dépistage par IVA ont été examinées par colposcopie effectuée par des infirmières qualifiées. Les résultats de la colposcopie étaient divisés selon les catégories suivantes. Normal, bénin, néoplasie cervicale intraépithéliale, SIN de bas grade, SIN de haut grade et cancer invasif probable. Les infirmières étaient aussi chargées d'effectuer des biopsies dirigées chez les femmes diagnostiquées avec des lésions caractéristiques de SIN. Dans le cas où les infirmières décidaient que la lésion pouvait être traitée à l'aide de la cryothérapie, immédiatement après la biopsie dirigée et dans le même lieu que le dépistage, elles procédaient à une cryothérapie par double congélation. La résection à lanse diathermique était indiquée dans les cas de lésions plus étendues et les femmes étaient référées vers un centre de diagnostic et de traitement dans les cas de suspicion de cancer invasif. Le suivi des deux cohortes de l'étude sur le dépistage a été effectué au moyen du registre de cancer de population, du système de registre de la mortalité et d'un suivi actif des patients à leur domicile pour fournir des données sur l'incidence et la mortalité du cancer du col dans les deux groupes d'études. Tout a été mis en œuvre pour compter de façon précise les cancers du col utérin dans les deux groupes et pour finir, les résultats ont été comparés en prenant en compte l'analyse en intention de traiter et le type d'étude en groupe pour fournir des résultats en termes de rapport des taux d'incidence, hazard ratio, du cancer du col et de la mortalité qui y est liée. Les deux tiers des 49 000 femmes invitées à participer au dépistage, c'est-à-dire environ 32 000 femmes, ont été dépistées. 10% de ces femmes étaient positives au dépistage par IVA et quasiment la totalité a été examinée par colposcopie, qui était réalisée sur le terrain, dans le même lieu que le dépistage. Sur 100 femmes dépistées par IVA, une femme a été détectée avec des lésions SIN 2 et 3 ou un cancer invasif. Sur 100 femmes dépistées, on a détecté des lésions SIN 1 chez 6 femmes environ. De fait, le taux de positivité dépendait de l'âge et il en était de même pour le taux de détection. Pour les femmes âgées de 23 à 39 ans, la positivité au dépistage était élevée, ainsi que le taux de détection de lésions SIN, ceci probablement en raison de la visibilité de la zone de transformation au niveau de l'exocol. Mais chez les femmes post-ménopausées, c'est-à-dire le groupe de femmes âgées de 45 à 59 ans, le taux de positivité était bien plus bas, ainsi que le taux de détection. Je vais maintenant vous montrer les graphiques résumant les taux de positivité du test en fonction de l'âge, le taux de participation au dépistage en fonction de l'âge et le taux de détection des SIN et du cancer du col à la suite du dépistage. Comme vous pouvez le constater, les taux de participation déclinent avec l'âge, mais en revanche, le cancer du col augmente avec l'âge. Voici les résultats après 7 années de suivi. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons soumis notre article pour publication. Il a été revu par un comité de relecture par des pairs. Nous pouvons observer pour l'instant que, 7 ans après le début du dépistage, il y a 147 cas de cancer du col invasif dans le groupe d'intervention, c'est-à-dire le groupe IVA, comparé aux 154 cas de cancer invasif dans le groupe témoin. Ceci s'est traduit par la prise en compte de la valeur personne année. Il y a 274 000 personnes années dans le groupe d'intervention, contre 180 000 personnes années dans le groupe témoin. Ceci s'est traduit par une réduction d'environ 25% de l'incidence du cancer du col dans le groupe IVA. On dénombre environ 83 décès liés au cancer du col dans le groupe d'intervention, comparé aux 92 dans le groupe témoin, ce qui s'est traduit par une réduction d'environ 35% de la mortalité du cancer du col utérin suite au dépistage par IVA. Les résultats sont très intéressants et très prometteurs, et vous pourrez bientôt les voir publiés dans la littérature. Je vais vous parler à présent d'un autre essai randomisé essentiel qui compare une série de dépistages uniques à l'acide acétique par test HPV ou par cytologie conventionnelle pour le dépistage du cancer du col dans l'état du Maharashtra en Inde en collaboration avec le Tata Memorial Center et l'hôpital Nargis Dutt Memorial de Barshi en Inde. Cet essai a été mené dans le district d'Osmanabad et implique plus de 600 villages. Les femmes admissibles sont celles qui sont âgées de 30 à 59 ans et dont l'utérus est intact. Cet essai a donc démarré en 1999, le recrutement en 2000 et le dépistage s'est terminé en 2003. Nous avons désormais l'ensemble des résultats de 7 ans de suivi et les résultats préliminaires en termes de taux de détection des lésions cervicales précancéreuses ont été publiés. Les résultats les plus à jour, portant sur la réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer du col utérin dans les différents groupes d'intervention, comparés aux groupes témoins et aux groupes de la cytologie, sont en cours d'analyse. Nous espérons publier les résultats définitifs dès le début de l'année prochaine. L'objectif de cette étude est tout d'abord d'évaluer la réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer du col utérin en relation avec une série de dépistages uniques par IVA, par cytologie ou par test HPV comparé au groupe témoin sans dépistage. Il s'agit aussi d'évaluer la réduction de la charge du cancer du col utérin associée au dépistage par IVA ou test HPV comparé au dépistage par cytologie conventionnelle. Dans le cadre de cet essai, le rapport coût-efficacité de ces différentes approches a été évalué. Il s'agit d'un essai randomisé en groupe impliquant 52 groupes d'environ 142 000 femmes admissibles. Ces groupes ont été divisés de façon aléatoire en 4 bras. Le bras IVA, qui comprend 13 groupes, soit environ 36 000 femmes. Les bras cytologie et du test HPV, qui comprennent aussi le même nombre de femmes. Et le bras témoin, qui comprend environ 31 000 femmes. On a dispensé une éducation à la santé sur le cancer du col utérin aux femmes du groupe témoin, et au final, 10% de ces femmes se sont tournées vers des services de dépistage et ont été dépistées par cytologie. Parmi les femmes invitées au dépistage, 71% ont participé dans chaque bras du dépistage. L'observance à la colposcopie était élevée dans le groupe IVA, en raison des résultats instantanés et grâce à l'examen colposcopique immédiat. Dans le groupe cytologie et dans le groupe par test HPV, l'observance était d'environ 87%. En termes de taux de détection, sur 100 femmes dépistées, qu'importe le test de dépistage employé, on a détecté des lésions SYN2 et 3 ou un cancer invasif chez une femme. En fait, le taux de détection des lésions SYN était similaire parmi les groupes de dépistage. Voici la répartition en fonction des stades du cancer du col utérin dans les différents groupes d'études. Comme vous pouvez le remarquer de façon évidente, on observe une forte détection à la baisse des stades du cancer du col dans les bras de dépistage. Plus de 50% des femmes ont été diagnostiquées au stade 1 ou 2 dans les groupes de dépistage, comparé à une proportion considérablement moindre de femmes, par exemple dans le groupe témoin, où environ 25% des femmes ont été diagnostiquées au stade 1, contre plus de 60% des femmes dans le bras du test HPV et environ 50% dans les bras cytologie et IVA. Je vous fais part ici des résultats préliminaires. Vous pouvez observer la détection excessive des cas par dépistage, suivie d'une diminution de l'incidence de cas de cancer du col dans tous les groupes de dépistage. L'incidence dans le groupe témoin demeure plus ou moins similaire. Il y a un sous-diagnostic dans le groupe témoin dont nous parlions en ce moment. Les résultats mis à jour du suivi, 8 ans après le dépistage, seront bientôt publiés. En conclusion, j'aimerais insister sur le fait que, pour que la prévention du cancer du col utérin par dépistage soit une réussite, les éléments clés sont un recoupement de données efficaces entre le dépistage et le traitement et l'amélioration de la couverture de dépistage. Si ces éléments ne sont pas réunis, le dépistage échoue. Pour terminer, je voudrais remercier la Fondation Bill et Melinda Gates pour avoir été le catalyseur d'un grand nombre d'études sur la prévention du cancer du col utérin dans les pays en voie de développement, via l'Alliance pour la prévention du cancer du col utérin, l'ACCP. Le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, est membre de l'ACCP et nous remercions la Fondation pour son immense soutien à cette grande cause. Un grand nombre d'informations sont désormais disponibles via les études de l'ACCP et d'autres études sont en cours dans d'autres pays en voie de développement. Ceci a ouvert la voie à d'autres conclusions importantes que l'on peut appliquer au domaine de la santé publique dans les pays en voie de développement. Elles sont réunies dans deux manuels, le premier publié par l'ACCP sur la planification et la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer du col utérin, prenant en compte toutes les leçons tirées de l'ACCP et d'autres études. Le deuxième, publié récemment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est un manuel facile d'approche sur la lutte contre le cancer du col utérin. Un manuel très utile pour les praticiens et servant de guide pour l'organisation de programmes de détection du cancer du col utérin et des services de soins que l'on peut mettre en place dans les pays en voie de développement. Nous sommes actuellement dans une situation unique. Nous savons que nous avons à notre disposition un grand nombre d'informations et d'ici peu, nous aurons des preuves convaincantes sur l'impact de nouvelles approches en matière de dépistage sur la réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer du col utérin. Nous avons de nombreuses données sur le rapport coût-efficacité. Alors, il ne nous reste plus qu'à agir. Merci pour votre attention.